L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. Nous sommes ensemble pour débriefer toute l'actualité du football un petit peu partout en Europe. Avec tout d'abord et à tout seigneur, tout honneur, les deux championnats les plus clinquants, les plus prestigieux, en tout cas les derniers vainqueurs des compétitions continentales. Je nomme ici la Liga espagnole, représentée par le toujours fringant Fred Hermel. Hola Fred.
Hola, bonsoir Jalal, bonsoir à tous, bonsoir Aurélien. Et je tiens à féliciter Aurélien d'ores et déjà, puisque la Première Ligue est le premier championnat déjà terminé, avec où on connaît déjà le vainqueur le 5 octobre. Là, bravo, là, nous, on peut pas faire aussi bien. Hein. On peut pas connaître le vainqueur chez nous si tôt. Mais voilà, toute mon admiration et toutes mes félicitations à Aurélien pour la rapidité de son championnat.
Et bim ! Et moi, je te félicite également pour la rapidité de ton attaque à l'égard du consultant de la Première Ligue anglaise, un championnat en Angleterre, tout en retenue, très loin bien sûr des envolées lyriques des Méditerranéens que nous sommes, même si tu n'en es pas vraiment un, Fred, on y reviendra. Salut Aurélien.
Salut Jalal, salut Fred. Il n'y a pas de round d'observation avec Frédéric Hermel. Hein. C'est toujours l'attaque directe dans les cordes dès le début. Hein.
Il a
C'est parce que tu es très fort, c'est pour ça. Enfin, c'est parce que je sais que tu sais encaisser que je me permets, sinon je ne le ferai jamais.
C'est notre petit taureau de l'après-match. C'est notre petit taureau de l'après-match. Et moi, le taureau, je le prends par les cornes, messieurs, dames. Alors, on commence tout de suite, mon cher Fred. Bah, tu évoquais, bien entendu, effectivement, 8 points d'avance pour Liverpool, déjà en octobre. Mais je rappelle juste que l'année dernière, ils étaient à 7 points avant la fameuse série des Boxing Day. Et à la fin, c'est Manchester City qui a fini en tête. Fred, nous, le championnat d'Angleterre, toi et moi en tout cas, directement quand on débat, n'est pas une priorité pour nous, c'est la Liga. On parlait de 8 points pour Liverpool, 8 points d'avance sur Manchester City. Le chiffre 8, c'est le chiffre porte-bonheur en Chine. Ben, il a fallu 8 minutes. 8 minutes et voilà la suprématie des deux géants de la Liga rétablie. Le FC Barcelone a infligé une correction éclair à Séville pour redevenir le premier poursuivant du Real Madrid en Liga. Parlons tout d'abord, mon cher Fred, du plus récent, à cette démonstration de force du Barça. On a l'impression, Fred, que ce match référence du club catalan face à l'Inter, il nous a redonné la meilleure version du Barça et d'un certain duo Lionel Messi et Luis Suarez.
Ah ben là, je suis pas d'accord du tout. Ah mais vraiment, je pense que le Barça a été magnifiquement efficace, mais dans le jeu, c'était horrible. C'est-à-dire que le Barça n'a pas plu à ses supporters. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Séville a fait le jeu au Camp Nou. Je pense que tu as vu le match, mon cher Jalal. Alors c'est vrai que il y a eu des buts sublimes. Là, le retourné de Suarez est extraordinaire, le coup franc de Messi fabuleux, enfin Dembélé son but avec contrôle pied gauche et frappe pied droit. Mais au niveau du jeu, alors moi je parle comme un supporter du Barça, je parle comme Xavi, voilà, on est tellement loin du Barça de Guardiola, de Iniesta, de Xavi, etc. Aujourd'hui, on a un Barça qui joue en contre, on a un Barça chirurgical dans ses buts, qui a su profiter de son efficacité extraordinaire et qui a toujours un gardien grandiose, parce qu'il y a quand même plusieurs occasions pour Séville. Mais je pense sincèrement que ça va mieux au niveau des résultats, mais qu'au niveau du jeu, on est très loin de ce qu'on peut attendre. D'ailleurs, les trois premiers de la Liga, aucun des trois ne joue bien au football. Ni le Real le premier, ni le Barça le deuxième, ni l'Atlético le troisième. Ceux qui jouent bien au football, et qui perdent des matchs, c'est la Real Sociedad et le Séville Football Club.
Ah, voilà, c'est ce que tu viens de dire. Ils jouent bien au football. Fred, on est en octobre. On est en octobre. Il faut engranger de la confiance. Il faut,
oui, je suis d'accord, voilà. Mais c'est pas le grand Barça.
Il faut gérer toi-même, le premier qui le dit. Il faut gérer ses efforts. Oui. Les titres, ça se gagne en mars, avril.
Oui, oui, mais au niveau du jeu.
Pour être au niveau. Et nous, déjà, on en parlait depuis des semaines, toi et moi, dans l'après-match. Que bah voilà, Messi n'est pas au top de sa forme, mais Messi,
non, bah non, mais c'est, ça,
peut-être,
c'est normal.
C'est peut-être une bonne nouvelle qu'il soit pas au top de sa forme en octobre, parce que ça veut dire qu'il va peut-être, en tout cas, on garde l'espoir qu'il retrouve, en tout cas, les supporters du Barça.
Voilà, oui, mais attends,
sa fraîcheur à la période en mars, avril.
Quel a été le meilleur joueur du Barça hier? Il s'appelle Arturo Vidal.
Bah, ça comme il me rappelle, justement, j'aimerais bien qu'on parle du cas Arturo Vidal. Alors, il me rappelle un peu la situation d'un certain Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, on s'en souvient tous avec Pep Guardiola, qui a été très clair avec lui à la fin de la saison. Il lui dit, écoute, je compte pas sur toi, trouve-toi un club. Arrive l'intersaison, il l'emmène, mais vraiment obligé et forcé parce que il y avait aucun club qui s'est manifesté. Il dit, alors, on l'emmène avec nous dans un stage en Autriche, puis un stage aux États-Unis. Résultat des courses, eh bien, Eto'o, qui faisait des bribes de match lors de la préparation à Pretemporada, puisque Guardiola comptait pas sur lui, eh bien, il a explosé les compteurs. Résultat des courses, le Barça, cette année-là, a tout gagné grâce à Samuel Eto'o. Et là, c'est la même situation. On parlait et on annonçait Arturo Vidal un petit peu partout. En Chine, on savait qu'il comptait pas beaucoup sur lui, notre ami Ernesto Valverde. Mais la donne a changé et a changé après sa rentrée en seconde période contre l'Inter, où le visage du Barça s'est complètement transformé. Et aujourd'hui, il redevient titulaire, il devient un joueur important.
Ben oui, il a été essentiel dans la remontada, la petite remontada contre l'Inter, ça c'est clair. Mais c'est un joueur... Mais c'est un peu pareil avec le Real, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quels sont les 11 du Real et du Barça. Valverde teste beaucoup de choses. Moi, après, je suis inquiet pour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Antoine Griezmann, qui n'a pas joué une minute. Et il y a une image, on le voit assis, même pas sur le banc de remplaçants, mais sur une glacière. Il est bizarre, ce Barça, en ce moment. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on est en début de saison, donc on va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Mais on est quand même très, très loin du beau... Du beau Barça, de la même manière que on voit aujourd'hui que des joueurs comme Valverde et Casemiro sont les joueurs les plus importants du Real. Ce qui est aussi un signe d'un football qui est quand même beaucoup moins beau. C'est-à-dire que la star, c'est plus le joueur le plus important aujourd'hui, ce n'est plus Cristiano Ronaldo, ce n'est plus un attaquant, mais c'est Casemiro et Valverde, deux milieux défensifs qui tiennent la baraque. Et ben du côté du Barça, on voit que c'est Arturo Vidal et Ter Stegen, parce que à 0-0, il y a quand même une main de Ter Stegen hallucinante sur une tête de De Jong. De Jong qui manque en plus une tête après, l'attaquant de cette équipe de Séville. Donc, dans les deux grosses écuries, c'est quand même plutôt des joueurs à vocation défensive qui permettent de gagner les matchs. Et ça veut dire quelque chose. J'espère sincèrement pour la Liga et pour le spectacle que ce n'est que passager et que les joueurs créatifs, les beaux footballeurs et les joueurs offensifs vont reprendre le pouvoir dans ces deux maisons.
Alors, Fred, je sais que tu es quelqu'un de proche d'Antoine Griezmann. On parlait un petit peu des difficultés d'adaptation d'Antoine Griezmann. Là, c'est un nouveau cap après, bien entendu, son match juste moyen face à l'Inter. Il n'est même pas titulaire dans une grosse affiche de la Liga contre le FC Séville. Il est vrai que Valverde, à cette occasion, a récupéré tous ses attaquants. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quel est le message, en tout cas, lancé par Valverde à Antoine Griezmann? Comment on peut interpréter tout cela? Parce que c'est une véritable problématique aujourd'hui au Barça, le cas Griezmann.
Il sort au bout d'une heure de jeu, 64 minutes, je crois, contre l'Inter. Et ça va mieux sans lui. Je pense, il n'y a pas de message, parce que Valverde, c'est pas un type qui envoie des messages. Je pense que Valverde considère aujourd'hui que Griezmann n'a pas forcément sa place comme titulaire incontournable du Barça. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Et moi, je suis très inquiet pour Antoine, même si c'est que le début et que je suis le premier à dire depuis cette saison qu'il faudra un temps d'adaptation, etc. Mais alors, je vais employer une expression de vélo. Il est borduré, c'est-à-dire il est ou alors les autres ne calculent pas comme diraient les jeunes. Griezmann est totalement mis de côté par Messi. Et ça, pour l'instant, la communication est nulle entre les deux hommes. Messi n'aime pas Griezmann. Griezmann lui fait tout ce qu'il peut pour avoir la reconnaissance du patron.
Mais est-ce que ça veut dire que le transfert de Griezmann au Barça n'est pas passé par la validation de Lionel Messi? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, il faut qu'on aille vite pour qu'on évoque aussi le Real et la Première Ligue. Est-ce que Luis Suarez ne peut pas jouer un petit peu l'intermédiaire, lui qui a une relation fusionnelle avec Lionel Messi et qui est proche également d'Antoine Griezmann, qui lui adore l'Uruguay et l'ami intime aussi.
Ben, ça passe comme ça. Voilà. Voilà.
Est-ce que l'avenir de cette histoire est entre les mains de Suarez plutôt que Messi ou Griezmann?
Alors, ça passe par l'Uruguay. C'est-à-dire qu'ils sont à Barcelone, mais ça passe par l'Uruguay. Godin est le meilleur ami de Griezmann, c'est le parrain de sa fille. Donc, Antoine Griezmann parle à Godin, qui parle à Suarez, qui parle à Messi, pour essayer d'arranger les bidons. Voici, et ça, je tiens de source sûre, la situation aujourd'hui d'Antoine Griezmann au Barça. C'est dire si c'est compliqué, quoi. Donc, après, moi, je fais confiance à Griezmann, qui est un bosseur, qui sait, je pense qu'il s'attendait à ce que ça se passe un peu mieux. Et le gros problème de Griezmann, il est aussi footballistique, c'est-à-dire qu'il est mis sur un côté et Griezmann n'a plus l'habitude de jouer sur un côté. Et Griezmann aime jouer en pointe ou derrière un attaquant de pointe. Alors si Suarez avait continué d'être mauvais, parce que c'était le cas ces derniers mois, on aurait pu imaginer qu'à un moment Valverde aurait peut-être pu mettre Antoine en pointe. Sauf que là, Suarez, il met les buts importants. Il met les deux buts l'autre jour contre l'Inter. Hier soir, il met le premier but alors que ce Barça est vraiment malmené par Séville. Donc aujourd'hui, au moment où on parle, là, il n'est pas question que Suarez bouge. Donc l'avenir très proche de Griezmann, pour l'instant, est assez sombre.
Voilà pour l'avenir d'Antoine Griezmann. Avant d'évoquer le Real Madrid, on va aller, mon cher Fred, si tu veux bien, du côté de l'Angleterre.
Oui.
L'Angleterre avec Manchester City, surpris chez lui par Wolverhampton, le club de Romain Saïss, qui s'est blessé d'entrée dans cette rencontre et qui manquera les deux rencontres amicales des Lions de l'Atlas. Défaite des Citizens, donc 2-0. Eh bien, Manchester City, champion sortant, qui compte désormais 8 points de retard sur le leader Liverpool, qui lui s'est imposé en toute fin de match. J'ai regardé cette rencontre face à Leicester. Alors, que réponds-tu à Fred Hermel quand il te dit que la Première Ligue est déjà finie ?
Non, on peut absolument pas affirmer que la Première Ligue est finie, même si en effet Liverpool est sur une dynamique de victoire qui est complètement incroyable. C'est 17 victoires consécutives. Ils sont quasiment à la portée du record de Manchester City d'il y a 2 ans, quand on avait gagné 18 de suite. Le match, la 18e victoire potentielle, ce sera le 20 octobre sur la pelouse de Manchester United, qui est vraiment pas en forme. Donc il y a vraiment des chances que Liverpool égalise ce record. La Première Ligue, c'est une compétition qui est longue, qui est difficile. Tous les clubs sont engagés dans les compétitions européennes. Et 8 points d'avance, finalement, on a déjà vu des clubs se faire remonter. C'était arrivé à Arsenal, remonté par Manchester
dernière,
United.
Liverpool avait déjà 7 points d'avance.
Et Liverpool a eu 7 points d'avance également l'an dernier devant City et a finalement complètement écrasé. Liverpool avait, je pense, à un moment 6 points d'avance devant Chelsea. C'était devant Chelsea ou devant quand ils perdent justement en 2014. Pareil, ils avaient 6 points d'avance. Voilà, c'est pas des écarts insurmontables. Après, il y a vraiment, je trouve, un vrai problème du côté de Manchester City cette saison. Et c'est un peu le problème inverse que ce que que décrivait Fred en Liga. C'est-à-dire que autant les effectifs en termes d'animation offensive sont énormes en première ligue et dans les équipes comme City, Liverpool, autant défensivement, par exemple, Manchester City a beaucoup, beaucoup de difficultés. Ils sont en train de bricoler, Guardiola bricole avec les joueurs qu'il a, parce que je pense qu'ils ont mal anticipé leurs besoins. La blessure d'Emerick Laporte a fait beaucoup de mal à cette équipe de City. Les résultats, ils se retrouvent avec des défenseurs centraux, Otamendi, Fernandinho qui est pas un défenseur central, avec à gauche obligé d'aligner João Cancelo qui est un latéral droit parce que Mendy s'est encore blessé juste avant la rencontre. Donc c'est vraiment très 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 compliqué. Ça fait déjà quasiment trois saisons que City par exemple n'arrive pas à gérer le problème du latéral gauche. Ça fait trois saisons aussi que la défense centrale, et ben ça bricole et ça leur a posé des problèmes en Ligue des Champions. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles City a pas réussi à aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et ce problème-là, eh ben Guardiola l'a pas réglé à l'intersaison et est en train de le payer dès ce début de saison. Déjà deux défaites en première ligue pour City. L'an dernier, City est champion avec quatre défaites sur toute la saison, et il y a deux ans, ils sont champions avec deux défaites sur toute la saison. Donc imaginez deux défaites en huit rencontres, c'est complètement inacceptable pour une équipe qui a les ambitions de Manchester City.
Manchester City, donc, en grosse difficulté. Et on a l'impression, en tout cas, mon cher Aurélien, que Liverpool, juste on rappelle, c'est une équipe qui n'a jamais gagné la Première Ligue. Depuis la première année, je pense, depuis 1991, elle n'a plus été championne. C'est vraiment une statistique très surprenante. Un club qui arrive à remporter des trophées sur la scène continentale, les Ligues des Champions, mais qui n'arrive jamais à s'imposer. En sens, cette année, que Liverpool est là, cette petite chance du futur champion. On a les difficultés avec lesquelles ils gagnent leurs matchs, des matchs qu'ils certainement n'auront pas gagné, par exemple, l'année dernière. Et ben, cette année, ça marche comme lors de cette confrontation face à Leicester.
Oui, parce que c'est une équipe qui a des ressources mentales qui sont, je pense, quasiment inégalables en Europe aujourd'hui. Klopp a réussi à faire en sorte que ses joueurs, de la première à dernière minute, soient toujours au pressing, soient toujours en train d'essayer d'aller chercher un résultat le plus positif possible. Et ça s'est senti contre cette équipe de Leicester. Je vous avais dit que ça allait être un match intéressant, cette rencontre entre Liverpool et Leicester, parce que Leicester joue vraiment très bien cette saison. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui pose beaucoup de problèmes à toutes les équipes de première ligue. Et ça s'est vu à Anfield, où vraiment Liverpool a dû batailler et attendre ce pénalty à la dernière minute pour finalement s'imposer. Et Leicester aurait pu même, je pense, aller chercher la victoire à Liverpool. Mais en effet, Liverpool, mentalement, est quasiment imprenable. Après, je continue de penser que Liverpool a un banc qui est un peu court, et que autant la saison dernière, toutes les étoiles se sont alignées pour aller gagner ce titre en Champions League, parce que ben, finalement, il n'y a pas eu les blessures au dernier moment, comme celle de Salah il y a deux ans en finale contre le Real. Il n'y a pas eu les petits coups du sort qui ont fait que Liverpool se retrouve encore dans la peau du loser magnifique. Sauf qu'en Première Ligue, avec un banc aussi peu fourni, j'ai peur que dès qu'il y ait, s'il y a un blessé dans le trio d'attaque, Mané, Salah, Firmino, si ça coince un petit peu derrière, et ben, vu que Klopp fait très peu tourner aussi ses joueurs, il y a par exemple Joe Gomez, le défenseur central, qui joue très peu, alors que c'est vraiment un joueur très talentueux et très prometteur, mais il joue quasiment pas parce que Klopp fait pas du tout tourner sa défense centrale. C'est type et Van Dijk et ça bouge pas. Je pense qu'il va y avoir des problèmes de rythme pour les remplaçants, et je pense qu'il va y avoir aussi des problèmes de vraiment de profondeur de banc. Moi, j'ai des petites inquiétudes pour Liverpool à ce sujet-là.
Voilà donc pour la première ligue anglaise, rapidement, mon cher Aurélien, l'embellie de Chelsea qui se confirme, le Chelsea de Frank Lampard qui rejoint le haut tableau, un succès 3-1 face à Southampton, et bien 4-1 même, le Chelsea qui devient donc cinquième à 2 points de City.
Oui, Chelsea, ça marche bien à Chelsea, parce que Lampard, qui a été un petit peu en difficulté au début du mois de septembre, il était critiqué parce que Chelsea avait une petite pénurie de résultats, de bons résultats, est resté fidèle à ses principes de jeu, à sa logique de dire « moi, je veux monter une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs », et il a finalement réussi à mettre en place et à installer comme titulaire des joueurs qui finalement avaient très peu d'expérience en Première Ligue, qui étaient plutôt des joueurs qui venaient de la deuxième division. d'exception, comme Tammy Abraham, comme Mason Mount, comme Tomori. Et il a réussi, en ne cédant pas finalement à la pression populaire, à la pression des supporters qui voulaient plutôt remettre les vétérans comme titulaires, les Pedro, etc. Il a réussi à donner de la confiance à ses joueurs et à faire que ça tourne très très bien cette équipe de Chelsea maintenant. En plus, il y a le retour de Callum Hudson-Odoi, la petite pépite anglaise là, que voulait recruter le Bayern Munich, qui est revenu et qui a été monstrueux dans cette rencontre contre Southampton. Et en plus, je trouve que Chelsea a une équipe d'autant plus intéressante que, contrairement à Liverpool, eux, ils ont un banc extrêmement fourni, parce que à la fin du match, qui rentre, Batshuayi, qui était plutôt persona non grata du côté de Chelsea, mais qui finalement va retrouver un petit peu de temps de jeu, je pense, au moins en
alternative. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Olivier Giroud. Hein.
Non, alors Giroud, je pense que ça va être compliqué, ça va être une longue saison pour lui, mais voilà, ils ont quand même des solutions en attaque extrêmement extrêmement larges, ils ont quand même pas mal aussi de défenseurs, ils ont du monde au milieu de terrain. Kanté est en train de retrouver son niveau de jeu complètement extraordinaire qu'on lui connaît depuis 3-4 saisons. Chelsea, il va falloir regarder ce que ça fait, et je pense que ils ont vraiment un coup à jouer en Premier League cette saison. Champion, c'est difficile à dire, mais je pense que vraiment Chelsea peut ambitionner d'être sur le podium de la Premier League encore cette saison.
Allez, on revient du côté de l'Espagne avec le Real Madrid qui s'est imposé 4-2 face à Grenade. Grenade qui était l'étonnant deuxième à son arrivée au stade Santiago Bernabéu où tu étais, mon cher Fred, ce week-end.
Oui, alors, première période vraiment belle des Madridens, il faut le reconnaître, mais en deuxième mi-temps, cette fragilité, ce spleen. En fait, c'est dingue qu'une équipe quand même qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite, que cette génération de joueurs a gagné 4 Ligues des Champions, ben, ils ont toujours un petit coup de mou dès qu'ils se prennent un but. En fait, quand tout va bien, quand ils marquent le premier, ça va, mais dès que l'adversaire montre qu'il peut faire quelque chose, il y a une sorte de déprime qui s'installe. Et de 3-0, ben, on aurait pu passer on est passé à 3-2, hein, après la bourde du gardien Areola, le gardien français prêté par le Paris Saint-Germain. Cette petite bourde, le but sur penalty, et puis un but sur corner des Andalous. Et bon, après, Rames a fait un joli contre et a permis de terminer le match sur un but en plus du Real. Donc, les gens sont partis plutôt contents. Mais on sent une certaine fragilité. Ils sont incapables de tenir le rythme pendant 90 minutes.
Une fragilité, mon cher Fred, concrétisée notamment par cette bourde que tu évoquais à l'instant d'Alphonse Areola. Et tu as posé la question à Zinedine Zidane par rapport à cet incident et ce but gag concédé par le Real Madrid après une erreur du tout jeune portier français. On écoute Zinedine Zidane.
Il sait qu'il a fait une erreur, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais par contre, encore une fois, en fait, je reste sur son match. Moi, le match énorme qu'il a fait, il a été énorme dans la portée. Pas simplement le fait d'arrêter des buts, parce que bon, je pense qu'il n'a pas trop eu d'arrêt, mais par contre, il a beaucoup parlé à sa défense sur les coups de pied arrêtés. Il a été impressionnant parce que ça se voit. Enfin, il a fait ça naturellement. Je suis content pour lui. Je suis content parce que ça se passe bien. Il fait partie de la plantille.
Voilà, il fait partie de la plantilla. Moi aussi, je suis devenu spécialiste du franco-espagnol de Zinedine Zidane et la plantilla.
On appelle ça le fragnol.
Le fragnol de Zinedine Zidane, là, il fait partie de la plantilla, donc de l'effectif et tout ça avant le paron, c'est ça, mon cher.
En fait, il a même dit plantille.
La plantilla.
L'effectif avant le paron, le break international.
Le Real, le leader, il reste une petite minute, gagne, toujours leader, mais toi, t'es pas rassuré.
Non, parce que je trouve que c'est encore une équipe fragile. Alors c'est vrai que ils sont quand même leaders, hein. Faut pas. Mais c'est pas un très beau jeu. Il y a de bonnes phases, mais on sent que c'est une équipe qui n'est pas encore, qui n'a toujours pas trouvé sa vitesse de croisière, qui manque de sûreté. Et comme je le disais sur le Barça, à partir du moment où les milieux défensifs sont les joueurs les plus importants des deux équipes, c'est que offensivement, ce n'est pas encore assez bien.
Fred, il te reste 40 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Qu'est-ce qu'on retient ce week-end? Mais en 40 secondes, bien entendu, tu en es capable.
40 secondes, on va parler de l'Atlético quand même. Parce que c'est une équipe qui essaye de faire un plus beau jeu. Il faut quand même reconnaître. Il y a quand même dans le match nul qu'ont concédé les Colchoneros à Valladolid, il y a eu la volonté d'aller de l'avant, mais ça manque un petit peu d'efficacité là aussi. Donc je trouve que l'Atlético, là aussi, qui est troisième, qui a eu une belle victoire cette semaine en Russie en Ligue des Champions, 2-0 à l'extérieur, elle n'est pas encore non plus à son top, quoi. Donc je vais écouter ce que dit le patron de l'émission, qu'il vaut mieux être prêt au mois de février, mars, avril, quand se jouent les titres, qu'au mois de septembre, octobre. Mais pour l'instant, les trois grosses écuries du football espagnol sont très très loin d'être à leur niveau.
Et t'as intérêt à être d'accord avec le patron de l'émission si tu veux être là toi aussi. En mars, avril, au moment où les primes sont distribuées. Merci beaucoup Fred. Merci
Adios.
Aurélien
merci,
de Bernois. On va retrouver bien entendu dans la seconde partie de l'émission l'Allemagne, aussi l'Italie et le championnat de France. Amis, dans cette seconde partie de l'après-match, après la première ligue anglaise et la Liga, place à la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1, le championnat de France. On accueille tout d'abord David Lortolari, notre monsieur Bundesliga. Bonsoir David.
Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver.
Heureux de retrouver également Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonsoir les amis, quel plaisir d'être avec vous.
Alors aujourd'hui Hervé, on va pas beaucoup parler du PSG, on va parler du club que tu suis tous les jours, chaque week-end pour le journal L'Équipe, bien entendu je parle de Lyon. Mais avant de donner la parole, on va aller du côté de l'Allemagne où un vent de folie sur la Bundesliga. Alors nous avons en tête du classement Mönchengladbach, seul en tête, et le deuxième c'est Wolfsburg, vent de folie, vent de fraîcheur, qui a soufflé donc ce week-end sur la Bundesliga. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez toi, mon cher David Lortolari, où les Cadors ont tous trébuché à l'occasion d'une septième journée riche en émotions?
En fait, il y a des éléments assez simples, Jalal. Du côté des équipes qui apportent le vent de fraîcheur, de Wolfsburg, de Mönchengladbach, ce sont des équipes qui sont drivées, dirigées, tirées vers le haut par de jeunes entraîneurs, enfin jeunes, pas forcément en âge, mais en expérience, des entraîneurs qui apportent un peu une nouvelle façon de manager et une nouvelle façon de proposer de la tactique aussi sur le terrain. C'est le cas de Marco Rose avec Mönchengladbach et c'est le cas de Oliver Glasner avec Wolfsburg. On peut ajouter aussi en deuxième division, j'en fais une très très rapide parenthèse, la première place de Hambourg avec Dieter Hecking, nouvel entraîneur aussi à Hambourg. Et donc ce rajeunissement-là, ce changement un petit peu de dirigeant sur le terrain apporte vraiment quelque chose. Et eux ne trébuchent pas, même s'ils n'ont pas beaucoup de marge, contrairement effectivement aux gros qui se concentrent beaucoup sur la Ligue des Champions. Ça prend des forces à Dortmund, ça prend des forces au Bayern. On a vu le Bayern un peu agacé ce week-end de perdre contre Paderborn après avoir si bien réussi, et Aurélien le sait, en Angleterre contre Tottenham. Ça, ce sont des raisons très simples, mais qui sont des raisons réelles. Les gros se concentrent aussi sur d'autres épreuves, et en championnat, pour l'instant, la différence, du coup, ne s'est pas faite.
Alors, le Bayern de Munich, quand même, battu à domicile par Hoffenheim, 2-1, Leipzig, Leverkusen, Schalke, de notre ami Amin Harit, et le Borussia Dortmund, contraint au match nul.
Oui, pour le Bayern, c'était très agaçant cette défaite. Par exemple, on a vu Manuel Neuer, le gardien, montrer un vrai signe d'agacement envers son défenseur central, Jérôme Boateng, pour avoir laissé passer deux fois, se faire prendre en petit pont deux fois sur les deux buts qui ont coûté la défaite pour le Bayern. Par exemple, des signaux comme ça d'agacement. Mais plus, c'est un bon signe pour ce championnat, parce que ça montre que on n'a pas tant de marge que ça, et que les équipes qui se battent sont nombreuses. C'est bien de mentionner Schalke aussi, parce que c'est vraiment un changement magistral par rapport à l'an dernier aussi, là encore avec un nouvel entraîneur. Et ces équipes aussi sont tellement nombreuses dans le haut qu'elles peuvent se neutraliser à l'occasion de rencontres entre les unes et les autres. On peut ajouter Hoffenheim à la liste, effectivement, qui a tombé le Bayern ce week-end. C'est très intéressant et c'est un peu inédit ces dernières années, il faut bien le dire, en championnat d'Allemagne. Ça fait la une des médias télévisés, notamment en Allemagne, cette affaire-là, bien sûr.
Inédit et intéressant, mais à la fin, on va retrouver les mêmes, non? Rassure-moi.
Oui, bien sûr, parce que, comme on le disait il y a une minute, pour ces équipes qui apportent de la fraîcheur, il n'y a pas de marge. Wolfsburg s'impose souvent par un but d'écart. Pour l'instant, il y a de la réussite. Il y a des joueurs qui ont bien leur place dans une équipe comme ça, comme l'ancien de Saint-Etienne, Guy Lavoghi, que je cite régulièrement, qui est très stable et très fiable. Mais il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge non plus à Schalke, il n'y a pas de marge à Mönchengladbach. On le voit sur la scène européenne où Mönchengladbach défaille pour l'instant. Il n'a pris qu'un point en deux matchs en Europa League. Donc ces équipes vont nécessairement à un moment ou à un autre entrer dans le rang. On n'est pas très fort en pronostic dans le football parce qu'il y a toujours des inattendus. Mais franchement, au moins le FC Bayern a largement de quoi revenir sur le devant dans les prochaines semaines.
Alors, il y a aussi la Nationalmannschaft qui a ces deux rencontres à l'occasion de, bien sûr, des dates FIFA prévues, avec beaucoup de problèmes au niveau de la composition. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, il y a plein d'absents, mais c'est cette solution trouvée par Joachim Löw pour ce qui est de l'affaire qui divise l'Allemagne. Neuer, Ter Stegen, un match chacun. C'est déjà un point de gagné, je pense, pour Ter Stegen, qui lui aussi a mis la pression sur le Joachim Löw, sur la fédération allemande, sur Neuer et bien sûr son cabinet d'avocats de Neuer, qui n'est autre que le patron du Bayern Munich et l'institution Bayern.
Quelle histoire, quelle affaire, effectivement, avec des communications très bizarres des uns et des autres, qui sortent un peu des canons habituels. Manuel Neuer, on parlait de son agacement tout à l'heure en championnat, c'est peut-être lié aussi à cette pression permanente qui lui est mise, malgré tout. Et puis le sélectionneur qui, effectivement, envoie un signal important en donnant à Ter Stegen les clés contre l'Argentine et en assurant Neuer quand même, par ailleurs, de jouer à l'occasion du match contre l'Estonie derrière. Je cite rapidement Jalal les absents parce que c'est quand même impressionnant. Le Roi Sané, Rudiger, Draxler, Kehrer, Goretzka, Nico Schulz, Ginter, Hector, Trapp et Kroos. 12 joueurs n'ont pas fait le déplacement à Dortmund. Et en plus de ça, Werner est grippé et Gundogan a des petits soucis musculaires. Donc il pourrait y avoir 14 joueurs qui sont pas aptes à ces matchs-là. Le sélectionneur est obligé de puiser aussi dans la jeunesse. Et il a, par exemple, appelé le jeune de Schalke, Suat Serdar.
Voilà, le jeune attaquant de Schalke, Suat Serdar. Merci beaucoup, David Lortolari. On va aller du côté du championnat de France, pas pour parler de la tête du classement, mais de l'événement ce week-end, le derby Saint-Étienne-Lyon et les débuts de Claude Puel, nouvel entraîneur de Saint-Étienne. On pouvait difficilement rêver du côté de Saint-Étienne et de Claude Puel d'un début de parcours aussi intéressant, aussi passionnant, ambiance magnifique, de la folie à Geoffroy Guichard et une victoire dans les arrêts de jeu pour Saint-Étienne. Mon cher Hervé Penaud.
Bien sûr, quelle ambiance j'y étais, je peux vous dire, c'était magnifique. Alors, d'une certaine manière, de temps en temps, on valait mieux regarder les tribunes que le terrain. Faut même être honnête. Parce que, du côté du jeu, ça n'a pas été extraordinaire. Mais pour une équipe de Saint-Etienne qui était au pied du mur, qui avait viré son entraîneur deux jours avant et qui avait pris Claude Puel, qui est quand même un grand nom du football français, ça a été le... Allez, on va pas parler d'exploit, mais enfin... Une grosse, grosse surprise, hein, parce que le niveau de jeu de l'équipe de Saint-Etienne n'est pas exceptionnel. Ils ont eu des difficultés durant ce match, hein, techniquement, à se trouver, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de lacunes. Mais ils ont réussi à trouver l'ouverture en fin de match sur une tête de Berić, hein, rentré peu de temps auparavant. C'est le coup gagnant total pour Puel, qui a changé le système de jeu, qui a mis en valeur d'autres joueurs, alors que certains avaient été mis de côté à l'époque de Ghislain Printemps. Caseri sur le banc, lui préférant bout de bouse. Donc tout ça, c'est des choix forts. Et force est de constater que ça a fonctionné. Mais en face, il y a un Lyon qui va mal, très mal. Ça rugit pas du côté de Lyon, mon cher Jalal. C'est vraiment le souci permanent. Et ces 10 jours vont être capitaux. Parce que tout le monde s'interroge sur la suite avec Silvinho. Est-ce que Silvinho va rester? Est-ce que Juninho va le débarquer? Parce que Jean-Michel Aulas a confirmé que c'était à Juninho de prendre la responsabilité. Il l'a nommé directeur sportif avec les pouvoirs attenants. Donc maintenant, c'est à lui de choisir s'il veut conserver Silvinho ou pas. Alors, choix très difficile, même pour Juninho lui-même, parce que c'est lui qui allait le chercher.
Tu y crois, mon cher Hervé, que c'est à Juninho de prendre cette décision? Parce que ce qu'il dit, Jean-Michel Aulas, effectivement, bah, c'est Juni, il l'appelle comme ça, Juni, bien entendu, qui gère les affaires sportives, mais en même temps, il dit qu'il y a deux réunions importantes du directoire du club et et deux réunions en quelques jours pour voir un petit peu où on est l'équipe, parce qu'aujourd'hui, bah, Lyon et le projet de Lyon, on sent que le club joue avec le feu parce que sa présence est quasi obligatoire en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de maintien de Lyon parmi les ligues qu'il est question.
Ah non, ça, on n'ira pas jusque-là, parce que je pense qu'ils vont se reprendre d'ici la fin de saison.
Mais on n'a pas l'habitude de voir Lyon
un peu,
aussi
mon
loin.
Mais il faut toujours se méfier, attention, parce qu'on ne sait jamais, quand une saison part mal, rappelons-nous Monaco l'année dernière, où c'est allé vraiment dans le mur. C'est quand même Juninho qui aura les clés, hein, parce que si Aulas a décidé de cette organisation-là, il veut qu'à un moment, Juninho prenne des responsabilités, sinon il ne faut pas le prendre, et s'il n'en est pas capable, il faut rechanger l'organisation pour refaire d'Aulas le boss de cette équipe de Lyon. Là, aujourd'hui, il a changé, c'est pour ça que j'ai la sensation aussi que Juninho, il ne va peut-être pas vouloir couper des têtes tout de suite. Est-ce qu'il a envie de couper la tête de son, enfin, c'est pas son ami, mais de celui qu'il a décidé de promouvoir comme entraîneur numéro 1, alors qu'il n'avait jamais entraîné jusqu'à présent? Ça, c'est une vraie interrogation. Les deux réunions dont parlait Jean-Michel Aulas, conseil de surveillance plus conseil d'administration de l'OL, sont deux réunions qui étaient prévues longtemps à l'avance. Ça n'a rien à voir avec les événements d'aujourd'hui. Simplement, ça permettra évidemment de parler de ce sujet-là qui va être à l'ordre du jour, puisque Aulas a quand même dit on ne peut pas ne rien faire. Mais ça veut dire quoi, on ne peut pas ne rien faire? Est-ce que c'est promouvoir un peu plus Juninho, lui demandant de se rapprocher du terrain et de Silvinho? Est-ce que c'est virer Silvinho? Mais si vous le virez, vous allez tenter de reprendre, imaginons un Laurent Blanc qui est libre sur le marché. Vous prenez Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, est-ce qu'il a envie de venir s'il y a Juninho qui est dans les pattes? Et Juninho, quel est son rôle après? Parce que si c'est Laurent Blanc que vous prenez, c'est plus Juninho qui choisit. Juninho qui choisit, alors qu'il a bien été dit au départ, c'est à Juninho de choisir. Sinon, il n'y a pas besoin de lui donner ce poste de directeur sportif. Autant le donner à quelqu'un d'autre, ou autant ne pas en avoir, comme c'était le cas précédemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la croisée des chemins, Lyon. Est-ce qu'il y a la confiance qui va être donnée encore à Silvinho, sachant que le retour de trêve internationale, vous jouez Dijon, Metz et Toulouse, donc possiblement un carton plein, même si attention, avec Lyon tout est difficile, donc c'est difficile d'anticiper, mais il n'empêche, bon, ce sont des équipes largement dans vos cordes, ou alors table rase d'un passé récent, c'est-à-dire virer directement le père Silvinho, mais alors quel rôle pour Juninho, qui choisirait dans ces cas-là dans la suite? C'est vrai que, bon, vous avez Laurent Blanc de libre, quand on se dit qu'il y a Laurent Blanc de libre en France, il aurait tout à fait le profil pour venir entraîner à Lyon. À une époque, ça ne l'aurait pas intéressé. Aujourd'hui, il cherche du boulot, donc ce serait un attelage qui pourrait fonctionner. Mais je ne parierais pas aujourd'hui. Alors peut-être que demain, je serai démenti, attention, parce que ça va se décider dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Mais je ne parierais pas nécessairement sur un Silvinho viré Manu Militari. On peut toujours lui adjoindre, par exemple, un Juninho qui sera un peu plus proche de lui, c'est une possibilité. Maintenant, moi, je ne suis pas Madame Irma. Ce que je peux dire, c'est que ça grince des dents au club, mais il y a une forme aussi de sérénité. On s'est dit, on fera un point après le derby. Le point va être fait. Il va falloir simplement prendre les bonnes décisions. Est-ce que ça a été une bonne décision de tout changer cet été en modifiant l'organigramme du club? Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, on est qu'au début de saison, faut pas l'oublier. Ça fait une dizaine de matchs en tout. Silvinho a lui-même possibilité de se reprendre sur ses difficultés, notamment des difficultés de coaching.
Alors, Juninho, Silvinho, merci Hervinho. On se perd un petit peu avec...
Oh, c'est terrible. Oh oui.
Ce duo.
Jalalinho,
exactement. Alors, on va aller du côté de l'Italie pour accueillir Simone Rovera. Et là, c'est pas Saint-Étienne-Lyon. Hein. Là, on est en train de parler du top. Hein. L'affiche des rêves, le derby entre la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Et finalement, le verdict, c'est quoi? C'est que la Juve reste la patronne, la Juve victorieuse à San Siro face à l'Inter de Buzyn, et qui met fin à une série de 6 victoires de cette équipe de l'Inter de Milan. D'abord, j'accueille Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir, Simonigno, Roverigno,
et prêt pour vous raconter tout. Et avec bien sûr cette victoire importante et cette deuxième défaite de la semaine pour Antonio Conte. D'abord le match, un match disputé devant 75 000 spectateurs à San Siro, Simone Rovere.
Bah oui, c'était guichet fermé. Il faut toujours rappeler qu'il y a quelques milliers de places qui ne sont plus en vente à San Siro pour des raisons de sécurité. Après qu'on a trouvé qu'il y avait un peu trop de tremblements sur les stades, donc ça bougeait un peu trop la vieille enceinte qui un jour verra malheureusement détruite, mais c'est aussi pour ça, pour la sécurité, qu'on va bâtir un stade tout nouveau. On attendait des feux d'artifice, c'était mieux, c'était le 14 juillet, c'était un match extraordinaire à niveau d'intensité, à niveau de spectacle, à niveau de rythme. On aurait pu avoir un peu plus de buts, bien sûr, mais l'Inter a montré d'avoir aujourd'hui une, deux, peut-être trois marches encore à monter pour arriver au niveau de la Juve. Et on a vu ça dans les occasions importantes où la Juve, sur les deux premières tirs cadrés, a marqué un but avec Dybala et a pris une barre transversale extraordinaire après une chose solitaire de Cristiano Ronaldo. Et l'Inter, qui n'arrivait pas à marquer des buts ou à frapper vers le but, même quand elle avait la possession du ballon dans les 30 derniers mètres de la Juve, très bien la manœuvre, très bien l'organisation, très bien l'intensité. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de route à faire pour l'Inter pour arriver au niveau de la Juve. Mais c'est très simple. Je vous dis, pour moi, un moment clé du match, quand la Juve peut faire rentrer Higuaín de son banc de touche et l'Inter doit faire rentrer Politano. Vous voyez, il y a une différence de niveau entre les deux joueurs remplaçants, avant-centre remplaçant ou attaquant remplaçant. Et ça montre vraiment la différence qu'il y a aujourd'hui à niveau de l'effectif et du jeu. Il faut dire aussi que le jeu de la Juve est déjà est très beau. Le jeu de l'Inter est très puissant, intense, mais la Juve a vraiment quelque chose de plus, même à niveau esthétique. C'est beau à voir, c'est beau à voir jouer et c'est beau à voir gagner parce qu'aujourd'hui, c'est l'équipe la plus forte. Et je pense que voilà, les trains pour le Scudetto va rentrer dans la gare de Turin même cette année.
Voilà, 6 victoires, 1 nul en 7 matchs pour la Juventus, qui a maintenant une longueur d'avance sur l'Inter. On attendait le Portugais, notre ami Cristiano Ronaldo. On a eu deux Argentins, Dybala qui ouvre la marque dès la 4e minute, et puis ce superbe but victorieux de l'ami de Fred Hermel, un certain Gonzalo Higuaín.
Mais Gonzalo Higuaín, au-delà que l'action était magnifique, et on avait eu la même action en première mi-temps sur un but annulé à Cristiano Ronaldo pour un hors-jeu de Dybala, très rapide, très technique, c'est un peu la revanche de Gonzalo Higuaín, énorme protagoniste de la soirée. Lui qui, il y a 2 ans, avait marqué le but de la victoire, souvenez-vous, ces matchs 3-2 avec la Juve qui gagne dans les 5 dernières minutes, il avait fait un pas important vers les titres, à la veille de la défaite du Napoli de Maurizio Sarri à Florence, là où tout s'était joué pour les titres d'il y a 2 saisons. Gonzalo Higuaín a montré d'avoir eu raison à vouloir rester à la Juve, à vouloir chercher de gagner une place titulaire. Hier n'était pas titulaire, mais dans la tête des Sarri, si c'est pas 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10 titulaire, c'est 6 ou 7, c'est lui qui va être titulaire presque tous les matchs à la place de Dybala. Et pour 9 minutes, 9, pas plus, hein, 9, on a eu droit à voir les trios ensemble, Dybala, Cristiano, Higuaín. Après, ça n'a pas été extraordinaire sur les 9 minutes, mais ça montre que dans un petit coin de sa tête, Maurizio Sarri garde cette hypothèse pour l'avenir. Et si les choses commencent à se passer bien, je pense que ce trio va faire des étincelles, parce qu'il y a tout, la force physique, la technique et et Cristiano. Voilà, Cristiano c'est total, c'est tout total, même si hier il a été un peu en difficulté, il faut le dire, une barre transversale, quelques actions, mais c'était pas le meilleur match de Cristiano depuis que son arrivée à la Juve, c'est sûr.
pas le meilleur match de Cristiano Ronaldo avec la Juve. On va revenir du côté du championnat de France. Une véritable promenade de santé pour le Paris Saint-Germain cette fin de semaine, mon cher Aurélien Hervé, avec bien entendu une victoire 4-0, un nouveau but de Neymarinho contre Angers.
Neymarinho, exactement. Un nouveau but, alors pas le but le plus décisif, parce que ouais. Rappelons-nous quand même qu'il a émis le but contre Lyon, qui était le 1-0, le but contre Strasbourg. Etc. Là, c'était le quatrième but, bon, c'était histoire de sceller le spectacle. 4-0 contre le Dauphin, ne l'oublions pas à l'époque, c'était l'équipe numéro 2 du championnat de France. Alors évidemment, Angers n'est pas amené à perdurer sur les hauteurs du championnat de France, mais bon, il n'empêche que c'était une belle balade. Le Paris Saint-Germain a fait le boulot sans Mbappé, hein, puisqu'on Mbappé ressentait les légères douleurs par rapport à ce qu'il a vu à sa cuisse, mais c'était assez logique. Et puis là, il va se reposer quelques jours, mais il va rester certainement en équipe de France. Donc c'était attendu, mais avec ce Paris Saint-Germain qui avait quand même pas mal de soucis, on se souvient quand même des défaites contre Rennes et surtout contre Reims, la dernière fois. Eh bien, il fallait quand même enclencher une dynamique. La dynamique, elle est là, vu que derrière, ça n'avance pas, puisque Marseille n'avance pas, battu, Lyon n'avance pas, Monaco battu, donc les soi-disant cadors derrière, même Lille qui fait match nul à domicile, ça fait que ça y est, c'est déjà l'envol du Paris Saint-Germain pour la première place, mais enfin, il n'y avait pas non plus beaucoup de soucis sur cette première place, donc ils font le job, le boulot, maintenant il faut attendre le retour complètement d'Mbappé, celui de Cavani, hein, toujours blessé, donc ça commence à poser des problèmes, Icardi commence à se mettre dans le rythme, et puis, quand même, félicitons et soulignons le travail de Idrissa Gueye, qui a marqué en plus un but, et une nouvelle fois, qui est quasiment l'indispensable aujourd'hui du milieu de terrain avec Verratti. Il fait un début de mandature au Paris Saint-Germain de très haut niveau. Bon, il a eu son match référence, enfin son match où il a été au top niveau, bien sûr, étant le Real Madrid, mais tout ce qu'il a fait à côté, c'était vraiment le pion manquant, un pion essentiel aujourd'hui de cette équipe du Paris Saint-Germain, mettant à lui de rester à ce même niveau et de garder cette cohérence un peu dans son jeu, puisqu'il n'en joue jamais trop, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, donc Gueye pour l'instant c'est l'énorme bonne pioche du mercato parisien.
Merci mon cher Hervé Penaud, bien sûr Gueye, l'international sénégalais qui est en train de s'imposer et de s'affirmer comme finalement cette pièce manquante dont avait besoin le Paris Saint-Germain. Merci Hervé Penaud, notre
ciao,
consultant
ciao,
pour la Ligue 1 et pour le football africain. Merci beaucoup aussi à Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, à vendredi.
À vendredi avec Hakim Tamim. Mes remerciements également à Fred Hermel, à David Lortolari et aussi à notre ami Aurélien Devernois, sans oublier notre réalisateur Aïssam, qui nous a accompagnés tout au long de cette heure de football européen. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Mille merci d'avoir suivi. Ciao, les amis.